Oui, bonjour. Alors, c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours. Et moi, mon truc, c'est la BD. Donc, tout à l'heure, je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Non, je vois bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours, sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye.
Ce soir, j'ai souhaité vous présenter un ouvrage qui a été écrit par Fleur Dauget et illustré par Sandrine Thomen, publié par Actes Sud Junior et qui s'appelle Yokai, le monde étrange des monstres japonais. Car les yokai sont des monstres familiers japonais, spécifiques à cette culture qui allie la spiritualité bouddhiste au shintoïsme, qui est une religion ancrée quasi exclusivement au Japon. Ces monstres, alors on dit monstres par commodité de langage, mais ils n'ont pas tous des apparences effrayantes. De même, il y en a certains qui sont bons, il y en a qui sont intégralement mauvais, mais la plupart oscillent un petit peu entre les deux pôles. En tout cas, ils sont très souvent farceurs. Donc voilà, ces esprits, ils ont tous une histoire, ils ont tous un contexte culturel. Et ce livre, ça constitue une première approche du phénomène. Et il est extrêmement bien fait. Il comble aussi une lacune éditoriale parce que alors il existe d'autres livres sur les yokai qui ont été publiés en français, notamment un imposant dictionnaire qui a été signé Shigeru Mizuki, édité chez Pika. Mais ici, on a quand même une excellente vision d'ensemble et surtout une illustration qui est au top, qui reprend vraiment beaucoup de codes de l'iconographie japonaise, mais qui les occidentalise et les modernise très bien, avec une utilisation du trait et de la couleur qui sont assez réussies et assez subtiles. Ensuite, je dirais que le livre a le défaut de ses qualités, dans la mesure où il s'abreuve aux meilleures sources, mais ne les cite pas. Et ça, c'est peut-être une déformation professionnelle, et le bibliothécaire que je suis grince un petit peu des dents. Mais enfin, pour rendre justice à l'auteur, elle s'est nourrie aux sources les plus fiables et les plus agréables, on va dire, puisque un grand pionnier en la matière, c'est Lafcadio Hearn, qui était un Irlandais, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qui a vécu dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui a beaucoup voyagé, qui a été passionné, vampé littéralement par le Japon et la culture japonaise, à tel point qu'il s'y est établi. Il était enseignant et chercheur là-bas, et donc il était parfaitement bilingue. Il a même pris un nom japonais à la fin de sa vie. Et c'est un homme qui est essentiellement célèbre pour avoir publié en anglais, des histoires de fantômes et de monstres japonais. Le plus célèbre de ses recueils s'appelle Kwaidan. Il a été adapté au cinéma par Masaki Kobayashi, qui était déjà connu pour un film qu'il a réalisé au début des années 60, qui s'appelait Seppuku, et donc qui en Europe s'appelle Harakiri, puisque nous on appelle Harakiri ce que les Japonais appellent Seppuku. Ne me demande pas pourquoi. Et donc Kobayashi, il en a fait le film de sa vie, et il a adapté plusieurs contes qui étaient dans le livre original Kwaidan, mais d'autres qui sont extraits d'autres compilations, notamment une qui s'appelle Shadowings. Donc voilà, parmi les créatures qu'on peut rencontrer, il y a les Noperabo, par exemple, qui sont des créatures humanoïdes, mais qui n'ont pas de visage, dont le visage est totalement effacé. Et donc l'auteur nous précise que les Noperabo peuvent être des loutres qui se transforment pour jouer des tours. Il y a également il y a d'autres esprits comme le Tanuki, par exemple. Alors le Tanuki, il est intéressant parce qu'il fait partie de ces yokai qui peuvent être plus familiers à une certaine génération parce qu'ils ont beaucoup influencé les Pokémon. Les Pokémon, en fait, c'est des yokai. Et Pokémon, en fait, je crois que ça veut dire monstre qui tient dans la poche, quelque chose comme ça. Et donc le Tanuki, en fait, c'est un yokai qui a été inspiré par le chien vivérin, qui est un petit canidé. Et alors il est rigolo parce qu'il se transforme souvent et il est surtout muni d'une gigantesque paire de testicules qu'il utilise comme arme, comme balancier, ça nous ramène aussi à des illustrations plus anciennes qui datent du 19e. On connaît beaucoup Hokusai, c'est l'artiste le plus connu, dont la bibliothèque d'ailleurs possède le dernier volume de la mangaka, qui est en fait un ensemble de fascicules qui était destiné aux dessinateurs pour qu'ils aient des modèles à reproduire, pour se faire la main, exercer leur art. Et donc il y a tout un ensemble de créatures, de scènes, de paysages qui sont croqués et dessinés. Mais il y a également d'autres artistes qui sont un petit peu moins connus. Il y a Kuniyoshi par exemple, et alors il y en a un troisième que j'aime beaucoup, et qui est cité dans ce livre, et qui est Hiroshige. Et ces artistes-là, le Grand Palais, il y a quelques années, avait réalisé une rétrospective de leur travail, et je me souviens que c'était vraiment un éblouissement de tous les instants, parce que il faut déjà se figurer la quantité impressionnante en termes de production. Tu te dis, c'est des gens qui ont dû vivre 80 ou 90 ans en dessinant jour et nuit non-stop pour produire autant de choses, et il n'y a rien acheté. Tout est réussi. Alors évidemment, ils se nourrissent beaucoup du folklore, mais donc il y a tout un tas de légendes, de faits qui sont enjolivés, qui sont relatés par le dessin, mais aussi une espèce de verve dans la façon qu'ils ont de croquer des scènes de genre, des personnages, des attitudes, mais aussi cette espèce de splendeur du paysage, simplement esquissé, parfois quelques traits qui sont merveilleusement évocateurs, une notion du rythme graphique qui est complètement différente de celle qui a prévalu dans la construction des images en Occident, et puis l'inventivité formelle qui est sans cesse renouvelée dans la façon dont ils dépeignent les personnages, leurs attitudes, les actions. C'est vraiment quelque chose d'éblouissant. Et on en a, je pense qu'on a une première approche de tout ce folklore, de toute cette ce travail graphique dans ce livre-là. Donc en fait, il est vraiment extrêmement riche. Moi, je trouve qu'il déborde de très loin son sujet premier, qui en soi est déjà passionnant. Et même au niveau de la sociologie et de la culture japonaise contemporaine, il révèle beaucoup de choses, en particulier quand il parle des yokai qui n'existent plus, notamment le lécheur d'huile, tout simplement parce que quand on est passé à l'électricité, il n'avait plus de raison d'exister. En tout cas, il n'a pas souhaité lécher les ampoules électriques. Et puis il y a également des yokai contemporains qui sont apparus au cours du XXe siècle. Il y a celui qu'ils appellent la passante horrifiante, qui porte un autre nom, je crois que c'est la femme qui rit aussi. Il y a un manga assez court, en 2 ou 3 volumes, qui a été publié, ça doit faire une quinzaine d'années maintenant en France, qui a repris ce personnage. Dont on pense qu'il incarne l'angoisse qu'ont les enfants devant cette obsession de la réussite qu'on leur impose dès leurs années d'école. Et puis il y en a une également que j'aime bien, tuk tuk tuk, je vais la retrouver, il faut que je feuillette le livre rapidement, voilà, Toire no Anako, qui est Anako des toilettes. En fait, c'est un fantôme de petite fille, alors habillée en écolière, l'écolière japonaise, avec la petite jupe à carreaux et puis les grandes chaussettes qui remontent jusqu'aux genoux, et en fait qu'apparaît d'un coup quand on est aux toilettes à l'école. Ou alors, elle est pas méchante, mais je me mets à la place de la personne qui la croise. Ah, coucou, vous êtes là. Donc voilà, ça aussi c'est un yokai qui est apparu au cours du XXe siècle et des années 80 en particulier, qui s'est développé. Donc voilà, c'est un petit peu comme les soucoupes volantes chez nous. C'est un mythe qui est en train de qui se construit et qui évolue. Et c'est fascinant parce que ce mécanisme-là, pour tout ce qui a trait au mythe antique, on l'a perdu. Et même on a du mal à rassembler les pièces du puzzle pour tout ce qui a trait aux apparitions du diable et à ce qui a accompagné la sorcellerie en Europe. Mais là, on a un matériau de première main qui nous permet de voir comment les mentalités évoluent et s'adaptent aux difficultés de la vie courante.
Alors, à écouter cette chronique, ce qu'on peut trouver assez, assez génial, c'est de se dire que dans le Japon d'aujourd'hui, il y a encore une place pour ces créatures, en fait, pour ce magique, pour les esprits, alors que, c'est quand même plus difficile de trouver ça dans une culture, disons, française en tout cas, parce que le diable et compagnie, c'est quand même très rare qu'il y ait des gens qui lui laissent une place dans le quotidien.
Ah, il est vrai que maintenant, cette place, elle a tendance à se réduire énormément, Mais il y a des émissions de télé des années 70 qui peuvent témoigner que très récemment encore, c'était une réalité courante en milieu rural en tout cas. Et il y a des folkloristes comme Claude Seignol, qui est décédé il y a pas très très longtemps, il y a 2 ans je crois, et qui lui connaissait très bien la région parisienne et d'ailleurs qui a écrit un folklore du Repois. Et qui lui avait connaissance d'authentiques sorcières qui habitaient à Bourg-la-Reine, et Bourg-la-Reine tuée en petite ceinture parisienne. Donc, alors bon, c'est sûr que c'était pas au début du XXe, c'était pas urbanisé comme ça l'est maintenant, mais on n'était pas dans la campagne profonde.
Alors, je serais curieuse de voir comment réagiraient des personnes plus ou moins âgées d'ailleurs, dans une bibliothèque, si tant est qu'il y en ait, dans certaines petites villes, vraiment en commune rurale, comment les gens réagiraient à une exposition autour des yokai en fait. Je serais curieuse de savoir ce qu'on dirait des dames d'un certain âge, peut-être dans le Berry par exemple.
Alors attention, parce que tu t'attaques à un sujet que je connais bien, parce que ma maman est berrichonne, et donc mes grands-parents maternels l'étaient aussi. Et effectivement, il y avait je dirais plutôt que c'était une forme de superstition qui s'attachait à certains événements qu'on peut avoir du mal à expliquer, qu'ils soient naturels ou autres. Et j'y pensais en plus spontanément quand tu disais ça. Il est pas impossible qu'ils disent oh bah qui que c'est que ce truc là, ça me rappelle ben quelque ou quelque chose. Enfin, c'est pas impossible du tout. Hein. Je sais que ma maman me racontait. Je raconte ma vie. Hein, je suis désolé, mais il suffisait que tu trouves un papier au bord de la route. Si tu avais le malheur de demander, ah bah tiens, c'est quoi? Touche-y donc pas. On ne sait pas qui que ça peut être, parce que là, on retrouve un petit peu la peur de pratiques ancestrales d'envoûtement et donc d'objets qui sont maléficiés. Et il suffit que tu les touches pour que tu attrapes le mal. Et un des grands principes de la sorcellerie, c'est justement l'équilibre des énergies. Et quand tu dois désenvoûter un objet maléficié, tu fais passer le mal ailleurs. Rien ne disparaît. Donc soit on fait crever un animal ou un arbre, soit on passe le mal au sorcier qui l'a envoyé en première instance. Et là, il y a une forme de punition morale en plus d'une guérison, on va dire, de la personne qui est envoûtée. Et ça, c'est des principes qui existent encore chez des gens qui sont rebouteux, que j'imagine qu'on ne voit plus voir pour des motifs d'envoûtement, mais pour soulager des maladies ou des problèmes de santé.
Dans les contenus de la bibliothèque municipale de Tours, est-ce qu'il y a des choses sur la culture du Berry, sur les objets maléficiés et autres sorcières?
C'est une bonne question. Je ne sais pas, parce que personnellement, j'en ai pas cherché, mais je serais étonné qu'on n'ait pas des ouvrages de Van Gennep, par exemple, sur le folklore. Et comme là on est dans la région centre, hein, donc on n'est pas dans le Berry même, mais on est juste à côté. Il est tout à fait possible qu'il y ait des références. En tout cas, un tel fonds existe bel et bien chez nos collègues de Châteauroux.
Du Japon à Châteauroux, il n'y a qu'un pas, bien sûr. Alors, est-ce que Guillaume, tu veux nous rappeler le titre de l'ouvrage ?
Les références bibliographiques, en somme.
Exactement.
Yokai, le monde étrange des monstres japonais, de Fleur d'Auger et Sandrine Thomen, publié chez Actes Sud Junior, disponible à la Bibliothèque Centrale.